ça ne signifie rien.
Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne.
Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec la participation de Tania Rachaud, cette émission est réalisée par Lucien Auriol. La coordination de l'émission et les lectures sont de Camille Bloomberg. Cette émission est préparée avec l'aide de Pierre de Charette, Victor Simon, Pierre Tréléa et Eban Valaïs. Vous pouvez retrouver cette émission sur les sites Amicus Radio et Les Surligneurs.
L'Europe.
Ici, avec preuve à l'appui que c'est une réforme dictée par le Conseil européen à M. Macron. La voici. Elle a été publiée le 5 septembre dernier au Journal officiel de l'Union européenne, dans laquelle vous pouvez lire que la France doit s'attacher en 2019 et 2020 à, je cite, « réformer le système de retraite pour uniformiser progressivement les règles des différents régimes ».
Aujourd'hui, il n'y a pas de problème de financement. C'est une transition lente vers la capitalisation, comme le demande la Commission européenne. C'est une pagaille organisée.
N'oublions pas, depuis 2013, la Commission européenne fait pression sur la France pour qu'une réforme des retraites soit imposée aux Français en 2020 au plus tard. Sur ordre de l'Union européenne, Emmanuel Macron va donc appauvrir nos retraites et gaver les fonds de pension.
Bonjour à tous. Vous venez donc d'entendre Juliette Le Chanteau, députée européenne du Rassemblement national, Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise et Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France. Alors, quelle est l'idée reçue ici? L'Union européenne aurait imposé la réforme des retraites. Et d'où vient cette légende européenne? Dans ce cas précis, elle vient précisément du Rassemblement national, de la France insoumise et du mouvement Debout la République de Nicolas Dupont-Aignan. Mais elle vient aussi, plus étonnamment, de la Commission européenne elle-même, notamment de Thierry Breton, le commissaire au marché intérieur. Il a déclaré en décembre dernier que tout le monde à la Commission estimait cette réforme nécessaire. Alors comment s'est-elle répandue, cette idée reçue? C'est habituellement l'opposition à la majorité en place qui diffuse ce genre de rumeurs. C'était déjà le cas pour la loi travail en 2016, qui était censée être sortie des cartons de Bruxelles, d'après Florian Philippot. Curieusement, vous entendrez assez rarement le gouvernement vous dire que s'il fait telle ou telle réforme, c'est à la demande de Bruxelles. Alors pourquoi est-ce que cette idée reçue plaît? Eh bien, c'est étrange, mais en réalité, elle ne devrait pas plaire. Pour l'opposition, reprocher au gouvernement d'appliquer les instructions de Bruxelles revient à reconnaître que ce n'est pas vraiment la politique voulue par la majorité. Sur le fond, on n'en veut donc pas au gouvernement, mais à l'Union européenne. Et est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, c'est faux. Mais en fait, tout ça est quand même assez complexe et nombreux sont ceux qui se sont fait avoir. Alors, à chaque grande réforme considérée comme un recul des acquis sociaux, c'est désormais la même histoire. L'Europe est à la manœuvre. À Bruxelles, du fin fond de leur bureau sombre et sur un fond de Wagner, oui, on n'écoute pas du Wagner, des fonctionnaires vendus au grand capital déballent de leur dossier des réformes visant à déréguler, libéraliser, privatiser. Qu'on songe aux ordonnances travail de 2017 et Florian Philippot, à l'époque encore au Front National, qui déclare sur France Inter le 18 septembre 2017 « Il faut se battre contre cette loi travail qui vient des cartons de Bruxelles ». À l'autre bout du spectre politique, à la France Insoumise, même constat. D'après Daniel Simonet, le 7 mai 2018, sur son compte Twitter, la loi travail a été exigée par Bruxelles. Alors d'un point de vue rhétorique, cette posture permet à l'opposition de montrer que le gouvernement n'est pas indépendant, qu'il ne met pas en œuvre la politique voulue par le peuple. En clair, qu'il n'est pas légitime. Ça permet à l'opposition de ne pas avoir à argumenter sur le fond, en déroutant le regard des électeurs vers un problème de pure forme. La tactique est habile, quoique mensongère. Et il faut toujours se méfier des mots, car les mots ont un sens. Et si mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, comme le disait Albert Camus, dans le cas de l'Europe, l'accuser de tous les maux c'est s'en éloigner toujours un peu plus. À ce jeu, mesdames et messieurs les Anglais ont tiré les premiers. Alors, deux questions se posent quand on aborde cette idée reçue sur la réforme des retraites est-elle, oui ou non, sortie des cartons de Bruxelles. Il y a une question d'abord de chronologie. Savoir qui, en premier, en fait, a déballé d'un carton cette réforme. Et puis, il y a aussi la question du pouvoir de l'Union européenne à orienter les politiques économiques des États membres.
Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ses politiques. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.
Vous venez d'entendre l'article 5 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, c'est peut-être un peu technique, mais si on comprend bien cette disposition, le traité qui régit les politiques de l'Union, dont les politiques économiques, ne prévoit qu'une coordination entre les États en matière économique et en matière également de politique de l'emploi. Qu'on se comprenne bien, d'abord, cela signifie que l'Union n'impose pas sa propre politique. Ce n'est pas le fait de la Commission européenne, ni même du Parlement européen. Non, ce sont les États membres réunis au sein du Conseil des ministres de l'Union, mais aussi au sein du Conseil européen. Et encore, ils ne peuvent pas prendre des décisions contraignantes, mais seulement faire des recommandations aux États. En clair, à eux-mêmes. Ces recommandations, on les appelle « grandes orientations de politique économique » ou « GOP ». Elles ne sont pas contraignantes, et écoutez l'article 288 de ce même traité.
Les recommandations et les avis ne lient pas.
C'est plutôt clair. Régulièrement, d'ailleurs, le champion de l'europhobie, qui peut sans scrupule comparer l'Union au régime nazi, François Asselineau, dénonce ces GOP comme étant les méchantes directives européennes pour contraindre les États à adopter le modèle capitalisto-immigrationaux-libre-échangiste.
Walter Hallstein, le juriste nazi choisi par Hitler pour préparer la nouvelle Europe.
Bon, et l'Union européenne a tellement peu de pouvoir dans la coordination des politiques économiques que, pendant la crise financière, les chefs d'État et de gouvernement se sont bien arrachés les cheveux pour arriver à imposer leur vue aux Grecs, aux Portugais ou encore aux Irlandais. Du coup, comme les traités ne permettaient pas d'imposer de telles choses, ils ont dû passer par un autre moyen, créer un mécanisme de financement de la dette de ces pays en dehors des traités européens, en contrepartie de réformes structurelles. Se pose maintenant la question de la chronologie de tous ces événements. And when he's stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man. Vous êtes toujours sur Amicus Radio et vous écoutez Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent. Et cette pause musicale était assurée par Mott The Hoople avec l'inspirant morceau All The Young Dudes. Alors dans quel ordre ? Dans quel ordre est-ce que les choses se sont déroulées sur la réforme des retraites ? On pourrait se dire qu'avec ces innocentes recommandations et sous le regard des autres États membres, la France n'aurait eu d'autre choix que de plier et de lancer coûte que coûte sa réforme des retraites. Mais, et c'est là que l'argument est totalement erroné, l'idée d'un système universel à points avait germé dans la tête du président de la République bien avant qu'elle n'arrive sur la table du Conseil européen. En mars 2017, l'économiste Frédéric Bizard théorise dans son ouvrage « Protection sociale pour un nouveau modèle » la sortie du modèle corporatiste et l'instauration d'un régime universel de retraite à points. Cette idée d'un système par points est retenue par Emmanuel Macron en 2017.
Mais nous irons vers un système universel de retraite où pour chacune et chacun, quel que soit son statut, sa profession, son secteur d'activité, 1 euro cotisé donnera les mêmes droits à la retraite.
Une fois arrivé au pouvoir, Emmanuel Macron doit mettre en œuvre sa promesse. Alors, quelles sont les étapes? La première, le gouvernement publie en avril 2019 un programme national de réforme. C'est sur la base de ce programme national de réforme que les États membres réunis en Conseil adopteront les recommandations pour la France. En clair, la France propose un plan et le fait adopter par ses partenaires dans une recommandation qui ne sera pas contraignante. Alors, que contient ce programme national de réforme?
La construction d'un État-providence plus universel et qui facilite la mobilité sociale implique une remise à plat de notre système de retraite. Actuellement éclaté en 42 régimes de retraite aux règles différentes, la réforme à venir de notre système de retraite fera en sorte qu'à terme, un euro cotisé ouvre les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, et le statut de celui qui a cotisé. Salarié, indépendant, fonctionnaire. Ce nouveau système sera universel, plus juste et plus lisible, favorisant ainsi les mobilités professionnelles.
On comprend tous que ce que le gouvernement français écrit là, c'est ni plus ni moins que la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Mettre en place un régime universel à point. Et alors, le 9 juillet 2019, le Conseil des ministres des Finances de l'Union européenne rend ses recommandations pour la France et préconise de réformer le système de retraite pour uniformiser progressivement les règles des différents régimes de retraite en vue de renforcer l'équité et la soutenabilité de ces régimes. Mais il y a quand même un doute sur la paternité de cette réforme. Si la recommandation du Conseil arrive bien après le programme de réforme français, on peut quand même se poser la question. Dans un article daté de décembre 2019, le journal Le Figaro titrait « Une réforme soutenue par Bruxelles » et affirmait qu'en réalité, depuis 2013, la Commission poussait à une réforme du système des retraites, bien avant, donc, Emmanuel Macron. Et en effet, si on lit un projet de recommandation de 2013 de la Commission, elle écrit ceci.
D'après les projections les plus récentes du Conseil d'orientation des retraites, le système de retraite sera encore déficitaire en 2018, contrairement à l'objectif d'un retour à l'équilibre à cette date visé par la réforme de 2010. De nouvelles mesures doivent dès lors être prises d'urgence pour remédier à cette situation, tout en préservant l'adéquation du système.
Mais la recommandation devait être validée par le Conseil des ministres de l'Union. Et lorsque cette proposition de recommandation de la Commission arrive sur la table du Conseil, eh bien, elle va subir une modification à la demande de la France, alors présidée par François Hollande. Il est mentionné que le gouvernement français a décidé d'associer les partenaires sociaux à la réforme. Une manière de dire que le gouvernement ne maîtrisait plus totalement le contenu de la réforme et que le résultat pourrait être contraire à la politique menée par le gouvernement français sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et à partir de 2014, le Conseil reprend à son compte les mesures déjà prises par François Hollande, gel des retraites, création d'un comité de suivi des retraites pour surveiller le déficit du système, etc., etc. Toutes ces petites phrases dans les recommandations du Conseil ont été ajoutées à la demande de la France. Et c'est pareil pour chaque pays. Chacun compose ses propres recommandations au gré de son programme politique et de ses réalisations récentes. Alors, vous me direz, dans tout ça, à quoi sert le Conseil? Eh bien, à faire endosser par l'Union européenne les réformes voulues par un gouvernement. Et ça marche. Nombreux sont les politiques nationaux à tomber dans le panneau. Le gouvernement n'a qu'à laisser dire par ses opposants que la dérégulation du marché du travail ou la réforme du système de santé sont imposées par Bruxelles. Il trouvera en eux des alliés malgré eux pour faire passer, parfois en force, ces réformes. Et quand on regarde l'opposition s'alarmer, on a envie de dire « tel est pris, qui croyait prendre ?» Alors le Conseil, outil de déresponsabilisation massive?
Les États membres et l'Union agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte, où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources.
Vous venez d'entendre un extrait du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, on comprend à sa lecture que, eh bien, on ne laisse pas beaucoup de choix pour les États. Parce que les traités contiennent des dispositions qui incitent les États à agir d'une certaine manière. Ça, c'est un problème. Quelle est la liberté d'agir des États ou même de l'Union ? Mais ces dispositions ont un statut particulier. Elles sont obligatoires, mais pas vraiment sanctionnées, si elles ne sont pas suivies. C'est le cas de la politique économique. Alors que les États ont tenu à inscrire dans le traité le fait qu'ils agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouvert où la concurrence est libre, que se passerait-il s'ils ne le faisaient pas ? En réalité, pas grand-chose. Comme l'explique Francesco Martucci, chercheur à l'Institut de droit comparé de Paris,
ces principes sont énoncés d'une manière bien trop vague pour être directement applicables.
La formulation est tellement vague qu'elle laisse les États libres d'adopter une politique interventionniste à forte connotation sociale ou au contraire, ultralibérale. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne avait autorisé le système français de fixation du prix du livre par les éditeurs. Vous savez que quand vous allez chez un libraire, le prix du livre est fixé par l'éditeur et Amazon ne peut pas faire jouer la concurrence en baissant les prix des livres. Eh bien, pour la Cour de justice, la référence à une économie de marché n'est pas assez claire et n'est pas inconditionnelle. Libre donc aux États d'apprécier librement leur politique économique. Mais ce genre de disposition dénote un état d'esprit des États à un moment donné. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Union, elle est politique. Emmanuel Macron, en Europe, c'est le centre droit, comme le Premier ministre luxembourgeois ou d'autres. C'est une famille politique unie par des préférences partisanes, une communauté de vues sur l'économie ou la protection sociale. On a beau entendre les discours sur les égoïsmes nationaux en Europe. Il n'empêche que ceux qui sont du même bord politique sont trop heureux de se retrouver au Conseil ou au Parlement européen. Souvenez-vous que lorsque le Parlement européen a été créé en 1951, alors qu'aucun texte ne le prévoyait, les députés se sont regroupés en familles politiques, libéraux, chrétiens-démocrates et socialistes. Il faut prendre en compte cette dimension partisane pour comprendre les orientations politiques, notamment sur les questions économiques. Rien d'étonnant donc à ce que Thierry Breton, le commissaire européen chargé du marché intérieur, qui est lui aussi de centre droit, ait déclaré que cette réforme était nécessaire.
Vous savez, ici tout le monde comprend la nécessité de cette réforme, évidemment. C'est pas Bruxelles qui est à la manœuvre, bien entendu, ce sont les États membres, et en particulier c'est le gouvernement français qui est à la manœuvre sur cette réforme. Ce que je peux vous dire, c'est que elle est vraiment ici perçue comme nécessaire, compte tenu de l'évolution de l'âge de la vie, ce qui est une très bonne nouvelle, et aussi de la nécessité absolue d'avoir des régimes équilibrés.
Parce que ces familles politiques influencent ces orientations. Et ça, ça n'est ni plus ni moins que l'émergence, petit à petit, d'un espace politique européen. Mais en attendant que cela arrive, il est l'heure de retrouver Tania Rachaud pour sa chronique « Droits de l'homme ».
Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
Alors Tania, et les droits de l'homme, bordel ?
Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors, nous allons commencer par voir l'article 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.
Ce droit des personnes âgées est reconnu à l'article 25 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Charte est un texte relativement nouveau, puisqu'il existe depuis 2001, mais qu'il n'est devenu obligatoire qu'à partir de 2009. La Charte est intéressante pour plusieurs raisons. Parce qu'elle est contraignante pour les institutions de l'Union européenne qui doivent la prendre en compte quand elles adoptent des normes, parce que c'est le premier texte aussi complet, qui comprend 50 droits de l'homme, parce que c'est un texte qui vise aussi des catégories de personnes qui sont particulièrement vulnérables. Dans ces catégories, on retrouve les enfants, les travailleurs, les consommateurs, les étrangers, les personnes handicapées et les personnes âgées. Ce qui les réunit, c'est le concept de vulnérabilité. Ces personnes sont dépendantes du reste de la société car elles se trouvent dans une situation de fragilité particulière qui nécessite une intervention de l'État, des autorités, pour leur assurer une protection. Il s'agit donc de protéger les plus fragiles, d'éviter les abus sur ceux qui seraient en dépendance pour garantir finalement la dignité humaine. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne liste donc ces groupes vulnérables. Il faut d'ailleurs souligner le fait que les femmes ne sont pas, pour une fois, désignées comme des personnes vulnérables. Mais pour en revenir à la protection des personnes âgées dans la charte, il n'y a pas grand-chose qui le concrétise aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Même si le texte invite à respecter le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante. Alors que dans le Conseil de l'Europe, l'autre organisation européenne, le Comité européen des droits sociaux a rendu un rapport en 2017 sur le respect du droit des personnes âgées en France. Le Comité européen des droits sociaux s'intéresse, entre autres, aux ressources suffisantes des personnes âgées. L'objectif est de s'assurer que la France permette aux personnes âgées de maintenir un niveau de revenu qui leur permette de vivre décemment et de participer activement à la vie publique, sociale et culturelle. Pour avoir un niveau de revenu décent, Eurostat, établissement de statistiques, a considéré que le seuil de pauvreté, fixé à 50% du revenu médian ajusté, était estimé en 2015 à 892 euros par mois. Le Comité européen des droits sociaux vérifie alors concrètement le niveau de vie de nos personnes âgées en France. Il constate que les salariés ayant eu des carrières complètes au salaire minimum pourront percevoir 85% de leur salaire sur les 25 meilleures années. L'existence de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, prestation non contributive, permet de compléter les revenus pour arriver à un montant minimum de 801 euros par mois pour une personne seule. Le comité considère que cet encadrement suffit à démontrer que la France se conforme à la charte sociale européenne. Il dit que le niveau de ressources garanti est conforme à la charte sociale européenne.
Nous voulons ce débat sur le nouveau régime de retraite. Et nous voulons un débat profond, clair.
Alors finalement, le système des retraites en 2017 convenait au moins à l'organe européen chargé de vérifier le bon respect du droit social.
Merci Tania pour cette chronique Droits de l'Homme. Merci à tous de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur le site d'Amicus Radio et des Surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission sur le site d'Amicus Radio. Suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux pour l'actu.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.